Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chute, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com. Chute, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Des biscuits fabriqués à Blanzac en Haute-Vienne avec un savoir-faire artisanal et un goût authentique. Découvrez toutes nos recettes en grande surface et sur la boutique en ligne lescapricesdethérèse.com. Les Caprices de Thérèse, dégustez l'excellence.
Succombez au plaisir d'un dessert Marais Morin en écoutant Chute, on écoute la télé. Marais Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez la fameuse mousse au chocolat à l'ancienne et vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente près de chez vous sur marais-morin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chute, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, vous savez pas? Eh bien, on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien, oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Et au sommaire de ce nouveau numéro de Chute, on écoute la télé, l'hebdo dans un instant, notre coup de cœur cinéma cette semaine consacré à l'esprit Coubertin. Jérémy Saint, le réalisateur, sera avec nous. En fin d'émission, nous reviendrons également sur la sortie du film N'avoue jamais. Yvan Calberac, le réalisateur, reviendra sur ce succès en salle depuis une dizaine de jours assez incroyable. Et puis nos coups de cœur télé cette semaine consacrés à Marié au premier regard avec Raphaël, qui s'est marié la semaine dernière avec Ludivine, reviendra sur son aventure. Nous parlerons également de La Recrue qui démarre ce soir sur TF1 avec Laurent Sekaldi, le producteur, et Ethan Isidore, l'un des héros qui incarne Kevin. Nous aurons le plaisir de recevoir Axel Dodier, également alias Kelly Rigaud, dans Ici tout commence à l'occasion de l'intrigue spéciale Bretagne qui démarre jeudi. Et puis nous parlerons également de Attraction, la série événement et mini-série belge diffusée sur TF1 le jeudi avec Laura Sepul qui sera également avec nous. Et en exclu podcast aujourd'hui, nous reviendrons également sur la victoire de Romain et Laura, la 18e saison de Pékin Express qui s'est déroulée samedi soir sur M6. Vous l'avez compris, on va encore pas s'ennuyer aujourd'hui dans Chut, on écoute la télé.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur ciné cette semaine, c'est L'Esprit Coubertin qui sort mercredi dans les salles à l'approche, il y a quelques semaines, des Jeux Olympiques justement de Paris. Eh bien, nous allons faire une petite immersion, on va dire, dans ces Jeux Olympiques, mais en avance justement avec Jérémy Saint, le réalisateur qui est avec nous. Bonjour Jérémy.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, comment est né déjà l'esprit Coubertin et où est la genèse du projet justement? Comment c'est né tout ça?
Alors, il y a une évidence pour moi à faire un film, un premier film en tout cas avec Omar El Nesport, parce que je suis féru de sport depuis toujours. Mon père a été journaliste sportif. Enfin, j'ai baigné là-dedans, on va dire. Un jour, je suis tombé sur une news racontant qu'au JO de Pékin, il y a 48 préservatifs par athlète sur la durée de 15 jours distribués. Et bah, je sais pas, ça a dû faire germer une idée comme ça d'un film un peu d'un coming of age, une histoire de d'un athlète un peu empêché comme ça, pris dans cet immense village qui est une sorte de lieu de rencontre. Et tout ça a maturé et petit à petit, on est arrivé à je veux dire, c'est arrivé à peu près en même temps que l'imminence des Jeux à Paris, donc tout ça faisait assez sens de donner à comme cadre les Jeux de Paris au film.
Alors, ce qui est assez dingue, c'est que ce personnage de Paul, c'est Benjamin Voisin qui l'habite littéralement. Il est méconnaissable. C'est pour ceux qui le connaissent habituellement dans ses rôles, on ne le reconnaît à peine, quoi. Et il est assez dingue, même dans les mimiques, dans le caractère, parce que là, on a affaire à un personnage quand même relativement fermé, très, 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 on va dire, sur les jeux, sur la discipline qu'est le tir, et qui ne veut pas en déroger jusqu'au moment où il va être flanqué, on va dire, d'un compagnon de chambre qui, lui, est tout le contraire.
Exactement, il est complètement verrouillé, il est pur esprit de compétition en réalité, et il va rencontrer une sorte de frère des antipodes très différent de lui, un grand frère, une sorte
venu du Pacifique.
Venu du Pacifique, de Vanuatu, qui est joué, incarné par Rivaldo Pawawi, qui est une trouvaille à mon avis incroyable de Juliette Denis et Marie Canté, mes deux directrices de casting. J'ai l'impression que c'est le personnage de Benjamin, c'est bah, c'est un pari pour lui énorme de disparaître comme ça sous un personnage. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs, de jeunes acteurs en France qui oseraient s'atteler à une comédie avec ce ton-là et à, on va dire, s'amochir à ce point-là, se rendre aussi peu séduisant. Il a complètement embrassé le projet et je veux dire, c'est un cadeau incroyable qu'il m'a fait.
Son entraîneuse est jouée par Emmanuelle Berco, qui est absolument incroyable aussi. Et alors, Laura Felpin, qui joue le rôle de celle qui accueille justement les athlètes, Grégoire Ludig, il y a un casting de dingue pour un premier film. C'est un bonheur, ça.
Bah, c'est incroyable. Moi, je veux dire, je goûte tous les jours vraiment la chance incroyable d'avoir pu tourner avec Emmanuelle Berco, qui elle aussi a accepté de se faire une coupe avec Détresse de footballeur improbable. Et Laura et Grégoire, qui sont vraiment pour moi des éminences en termes d'humour, qui acceptent de rejoindre un projet qui, malgré tout, sur le papier, était pas gagné, était un peu audacieux, un premier film. Moi, encore une fois, hein, c'est un travail qu'on mène avec les directrices de casting et qui fait que on peut, je crois, tenter une comédie un peu avec un ton un peu singulier et avec en même temps l'assise, on va dire, de la comédie populaire, parce que des gens comme Grégoire Ludig et Laura Felpin sont référencés sur ce plan-là.
Ce qui est vraiment bien, c'est qu'il fallait certainement, à partir du moment où il y a le projet, il faut le financer. Ça prend souvent beaucoup de temps, surtout pour un premier film. Mais là, arriver justement à le tourner, à pouvoir le sortir au moment des JO ou à quelques semaines du début des JO, en tout cas, ça a dû être un sacré pari, peut-être une course contre la montre, non?
Ouais, complètement. On était très stressés de ce financement, de pouvoir tourner avant, parce que ça, j'ai l'impression que sortir après les Jeux aurait rendu presque le film caduque.
Ah oui, ça c'est clair.
On aurait forcément été rattrapé par le réel. D'ailleurs, le réel va rattraper le film, c'est sûr. Je pense que le réel, il y aura des événements absurdes pendant les Jeux, il y aura forcément des gags, des choses, on va dire, bigger than life. Et
peut-être un nouveau film à faire après.
Oui, ouais, c'est ça, je peux faire une suite, hein, pourquoi pas. Non, en gros, je me suis dit, il faut absolument sortir avant. Et on a eu raison, puisque même cette histoire de punaise de lit qui date du film depuis... les deux personnages sont réunis à cause de punaises de lit amenées par les Américains. Ça existe depuis 2017. Et à 6 mois des Jeux, énorme polémique, comme si on découvrait ces insectes-là à l'orée des Jeux. Et j'aime bien me dire que le film peut être prophétique sur certains aspects, c'est assez rigolo.
Il y a eu quelques réflexions, ou est-ce qu'il y a eu des gens du comité olympique, par exemple, qui ont été, peut-être, je sais pas, qui vous avaient parlé du projet, ou qui vous avaient pu en discuter, du moins?
On a été assez transparent, je crois, avec les juristes d'Avenue B, et on leur a dit qu'on faisait un film sur les Jeux, qu'on n'utiliserait pas le code visuel des Jeux, de toute façon on n'a pas les moyens de le faire, et que ça serait pas du tout le film officiel des Jeux. Je pense qu'ils sont pas très inquiets d'une comédie indépendante à 2 millions de budget par rapport au projet pharaonique et à la somme énorme de problèmes qu'ils doivent avoir eux à gérer. Je crois pas qu'un film sur les Jeux soit inquiétant pour eux.
Parce que c'est un petit budget, hein, 2 millions. Hein. Aujourd'hui, c'est un budget pour un téléfilm de prime time à la télé. Hein. Donc, c'est un tout petit budget pour le cinéma, même si ça peut paraître énorme. Aujourd'hui, on est plutôt sur 4-5 millions en moyenne sur un film, et encore pour un petit film en comédie.
Ouais. Comme partenaire Canal Plus et France Télévisions, donc on avait une forme d'assise. Mais en fait, on a tourné en un temps très court, 24 jours. Moi, j'ai une habitude de tournage, je fais la série Parlement, donc j'ai une habitude de tournage rapide, on va dire. Mais ouais, c'était quand même assez costaud. Je pense que c'est aussi... ça enlève une forme de pression aussi d'avoir un budget un peu plus petit, parce que les attentes sont moins fortes. Et c'est peut-être plus de liberté d'être ce qu'on appelle en annexe 3, donc dans un régime de cinéma un tout petit peu moins qu'on est riche. Mais c'est là aussi où le casting est un cadeau, parce que eux, ils acceptent de venir sur un film où il y aura pas des carloges et où ils
se mettent au service du film.
Ouais, ils se sont complètement mis au service du film. Et ça a été une idylle, hein, ce plateau, cette troupe, c'était super de travailler avec eux.
Alors justement, les projets après l'esprit Cobertin, est-ce que déjà Parlement aura peut-être une saison 4 ou pas, Jérémy?
Donc il y aura à coup sûr une saison 4 de Parlement. Elle est tournée, là, on est en montage. Et je commence à écrire un second long qui est sur qui a pour personnage principal un régleur de cascade, voilà. Je crois qu'il y aura peut-être éventuellement un autre projet avec Laura Felpin pour plus tard, mais alors là tout est un peu trouble, donc j'en dis pas plus, on verra.
Bon. Puis depuis le 20 mars, hein, je vous rappelle, vous avez Comédie Bis Repetita aussi avec Xavier Lacaille, qui est également dans les salles. Et je sais que vous aimez beaucoup Xavier.
Bah, c'est ma famille, Xavier, Clément.
Oui, c'est pour ça que je fais un petit clin d'œil en même temps. Merci beaucoup, Jérémy, en tout cas, d'avoir été avec nous. L'Esprit Coubertin, ça sort mercredi dans les salles. Un film à ne pas rater si vous avez envie de voir une comédie, justement. Et bah, quelques semaines des Jeux Olympiques, vous allez voir, et on va vous proposer une petite immersion sur fond de comédie, justement, au cœur du village des Jeux. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Bienvenue à Paris.
Il reste une petite semaine d'Olympiade. Si ça continue comme ça, on risque de finir nos Jeux à zéro médaille d'or.
Ouais, c'est des cons.
Il y a eu un SMS dans le public, ça fait tutut. Moi j'entends tutut. Je pleure, je crois.
Ça fait quoi d'être un des premiers tennismen vraiment nul?
On est ridicule.
Marie-Aude, la superintendante du groupe France.
Vous connaissez Paul, le shérif?
On vient, on gagne, on s'en va.
Et vous êtes donc l'adjointe du shérif?
Bah non, je suis sa coach.
Vous allez devoir partager votre espace.
C'est qui ce type?
C'est un nageur du Vanuatu.
Ça fait 8 ans que je m'entraîne pour ça. Moi j'ai besoin de calme.
Ils doivent m'attendre au village français là. Qu'est-ce que je fais là?
Ils te trouvent quand là-bas? Déjà, ils te trouvaient quand avant? Là, ils te trouvent très quand.
La ministre des Sports va passer. Et elle veut sa photo avec un futur champion olympique.
J'aimerais regarder le biathlon. Le biathlon, c'est... Oui, le... La neige le... et la chasse.
Moi je veux pas qu'on parle de moi.
Le tir, ça demande une implication totale.
Le tir en France, tout le monde s'en fout, hein.
C'est quoi l'Esprit Coubertin?
Super.
Bougez pas, nos coups de cœur télé dans un instant avec Axel Dodier, Laura Sépul, Ethan Isidore, Laurent Sekaldi, Raphaël de Mario Premier Regard. C'est juste après ça.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé, revient dans un instant. A tout de suite. Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Je veux quitter ma terre. Au moins une seconde, changer d'heure. Faire le tour du monde. Éteins la radio, mets les voiles. Change de paysage. Le ciel est beau, y a des milliers d'étoiles. Au bord du naufrage, change tes lunettes. Regarde par la fenêtre, respire un coup. Le vent frais sur tes joues. Écoute les mélodies, aime la vie, aime la tire à touche. Vois comme le monde est à nous. Je veux quitter ma terre. Au moins une seconde et changer d'air. Faire le tour du monde. Retrouver la mer. Loin de tout. Je compte heures, on compte pas nos heures. Ta da, 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 da. Le temps s'arrête et je vois dans le rétro s'envoler nos cœurs. Ta da, 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 da. Change tes lunettes, regarde par la fenêtre. Respire un coup, le vent frais sur tes joues. Écoute tes mélodies, aime la fille, aime la tire à touche. Tu vois comme on y prend goût. Je veux quitter ma terre. Au moins une seconde et changer. Après l'orage, le ciel est rose. Assez parlé de mots. Dans ce dernier voyage, allume la radio. Je veux quitter ma terre. Au moins une seconde, changer terre. Et faire le tour du monde. Retrouver la mer. Loin de toutes ces ondes, changer.
Rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé consacré à La Recrue qui débarque ce soir sur TF1, une toute nouvelle série produite par notre ami Laurent Ceccaldi qui est en ligne avec nous. Bonjour Laurent.
Bonjour Alain.
Et produit également par ta complice Caroline Solinolas également, qu'on a plaisir à retrouver également. Et on va avoir Ethan Isidore d'ailleurs, le héros, qui va être avec nous d'ici quelques minutes aussi en ligne. Laurent, La Recrue, c'est une magnifique série tournée dans les décors magiques du Pays Basque, bien évidemment, et à la découverte de ce jeune garçon Kevin Laurin qu'on va découvrir, et son destin assez incroyable de voleur, et qui finalement va se retrouver, on va dire embauché en quelque sorte par la police pour ses talents, et qui va devoir composer avec Thierry Neuvik. Si au début l'alchimie entre ces deux hommes n'est pas évidente, il pourrait bien se nouer un lien particulier entre ces deux hommes, et c'est ce qu'on va découvrir tout au long de cette série. En tout cas, comment est venue l'idée, Laurent, de cette fiction, de cette série?
Eh bien écoute Alain, cette idée nous est venue par des jeunes auteurs qui ont imaginé, dans un contexte de comédie policière assez classique, hein, un duo qui nous a beaucoup plu entre cette recrue, hein, puisque c'était déjà le titre du projet, ce jeune ayant poussé un peu de travers, un peu une mauvaise graine, avec un passé un peu d'escroc, qui justement, dès le début de la série, veut aller vers le chemin de la rédemption, parce qu'il se rend compte que ce chemin d'escroc peut le mener à sa perte, et donc il va décider à un moment donné de jeter les armes, entre guillemets, et de se rendre à la police. Et pour une raison qu'on ne découvrira pas tout de suite, il bénéficie d'une grande indulgence de la part de la commissaire Trinquant, qui est jouée par Judith Elzein. Je précise évidemment, parce que tu l'as pas dit en intro, mais que Kevin Laurin, c'est le nom du personnage, mais le comédien s'appelle Ethan Isidore. Le jeune comédien qu'on a pu voir dans le dernier Indiana Jones avec Harrison Ford, bien sûr, et Phoebe Waller-Bridge. Donc, Judith Elzein, qui joue la commissaire Trinquant, à un moment donné, va prendre Kevin sous son aile et lui proposer, non pas de l'incarcérer, parce que c'est quand même quelqu'un qui est un arnaqueur, qui a un talent fou pour se déguiser, pour infiltrer toutes sortes de milieux. Il a un côté un peu prestidigitateur, comme on le voit dès les premières minutes du pilote. Et donc, elle va, plutôt que de le mettre sous les verrous, lui donner une chance, c'est-à-dire qu'elle va lui dire que là, il va pouvoir éventuellement dénoncer les membres de son gang, mais on va lui éviter la prison, il va pouvoir pointer au commissariat régulièrement. Mais voilà, elle est touchée. Il y a des raisons qu'on ne saura pas tout de suite pour lesquelles...
Exactement, qu'on va découvrir. Ça va être un peu le fil rouge, d'ailleurs, hein, de cette première saison. Il y a certainement un lien particulier. On imagine, en tout cas, peut-être dès le départ, qu'elle fait pas ça gratuitement, ni pour en rien. Mais voilà, on va laisser évidemment le suspense au spectateur de découvrir pourquoi, voilà, lui donne cette chance, et elle va le mettre un peu entre les mains du personnage de Thierry Neuvik.
Voilà, c'est-à-dire que assez rapidement, le personnage de Kevin Laurin, qui n'est pas, évidemment... un auxiliaire de police, hein, mais il va pointer au commissariat comme il en a l'obligation, et très vite, parce qu'il a un œil averti, parce qu'il est très intelligent, parce qu'il est juste, parce qu'il est malin, il va se mêler de loin d'une enquête en cours, d'une enquête policière, et se révéler une aide précieuse pour le flic que joue Thierry Neuvik, et petit à petit, se rendre un peu indispensable au sein de l'équipe, qui va progressivement intégrer et donc former un duo complètement atypique avec Thierry Neuvik, qui va être le moteur de la comédie de cette série.
On va en parler avec Ethan dans un instant, justement sur son rôle de Kevin, puisqu'il va nous rejoindre. Mais Laurent, comment tu l'as découvert, ce jeune acteur? Il faut rappeler, quand il a tourné à l'automne dernier, il avait 17 ans, il a déjà joué dans Indiana Jones, enfin il est assez incroyable comme garçon, et il amène une espèce de fraîcheur et de rythme, en tout cas à cette série, assez dingue.
Il est incroyable, Ethan. C'est vraiment une révélation. Honnêtement, il avait déjà fait quelques petits rôles, notamment dans Sam, donc il n'était pas complètement inconnu. Et puis, il a eu ce talent extraordinaire de décrocher le rôle dans Indiana Jones, qui lui a valu les honneurs du Festival de Cannes, puisque le film avait été présenté à Cannes l'année dernière. Et donc, à ce moment-là, Jean-Maxime Renaud, qui est notre conseiller de programme à TF1, qui est un fin connaisseur des comédiens et qui nous a été d'une précieuse aide au casting, nous a dit, mais alors qu'on était en train de voir en essai des dizaines et des dizaines de jeunes comédiens, nous a dit, mais attendez, il y a cet Ethan Isidore qui est assez intéressant, je viens de le voir monter les marches, vous devriez le contacter. Ce qu'on a fait, et là, à ce moment-là, dès qu'on a fait le casting avec lui, on s'est regardé avec Caroline, mon associé, et on s'est dit, mais c'est incroyable.
C'est lui la recrue.
C'est la recrue. C'est plus la peine de chercher notre comédien. On l'a, il est incroyable. Qui a vu les épisodes de la série, il nous a étonnés chaque jour par son talent, sa gentillesse, sa disponibilité et sa bonne humeur. Et ça a été un plaisir de le voir grandir aussi dans la peau du personnage de Kevin Laurin.
Alors, le Pays Basque aussi, comme toile de fond, c'est une volonté affichée justement de nous emmener dans des paysages absolument sublimes, fantastiques de Biarritz et sa région, puisque d'ailleurs les premiers épisodes vont nous emmener directement au cœur du casino.
Ouais, écoute, bah tu sais que nous on aime bien chez En Voiture Simone, notre boîte de production, on aime bien la Nouvelle-Aquitaine. Tu sais qu'on a pas mal tourné là-bas. On se connaît bien toi et moi, et c'est vrai qu'on n'avait jamais tourné à Biarritz. Et évidemment, TF1 nous a suivis immédiatement pour ce choix de région. Et bah effectivement, c'est un grand atout de la série. Hein. C'est les Biarritz est une ville merveilleuse, les alentours sont merveilleux. Les Landes où aussi on a tourné nous ont offert des décors parfaits. Voilà, c'est vraiment un atout. Et comme tu l'as souligné, un des objectifs de la série, c'était aussi de... Bah, c'est vraiment ce décor fait partie intégrante de la série et l'enrichit énormément. Je crois qu'on n'aurait pas eu la même série dans une autre région moins belle, évidemment.
Mais en tout cas, les paysages sont sublimés à l'écran, vous allez voir. Ça s'appelle La Recrue. C'est ce soir sur TF1, le grand lancement de cette toute nouvelle série inédite avec Judith Elzheim, avec Thierry Neuvik, Ethan Isidore et plein d'autres. Voilà, vous allez voir au casting. En tout cas, on va pas le manquer. Et puis, on va parler du personnage, évidemment, de Kevin avec Ethan qui va nous rejoindre juste après la bande-annonce. Merci, Laurent, en tout cas, de nous avoir déjà donné ce début d'éclairage. Et puis, on va rejoindre Ethan dans une poignée de secondes. À très vite. Merci.
Merci, Alain.
Je te connais, Kevin. Ça fait 6 mois qu'on te suit avec ta bande. Si tu veux pas aller en prison, t'as intérêt à montrer au juge que tu veux vraiment te réinsérer.
Je ne veux pas de ce gamin dans mon service.
Transmettre tes compétences à un jeune, c'est hyper satisfaisant.
Hey, on taffe trop bien ensemble. Tu sais, ça me rappelle le flic de Beverly Hills. C'est trop stylé, non? Ça progresse. On peut se tutoyer maintenant?
T'emballe pas.
Vas-y, je te tutoie, t'inquiète.
La Recrue. Votre nouvelle série commence lundi prochain à 21h10 sur TF1 et en streaming sur TF1+.
Voilà, bande-annonce de La Recrue, c'est donc ce soir sur TF1, c'est l'événement et on va avoir notre héros, notre recrue, Ethan Isidore qui nous rejoint. Bonjour Ethan.
Bonjour, comment ça va?
Eh ben ça va très très bien, écoute, je suis très heureux de t'avoir Ethan, parce que c'est vrai qu'après le carton que t'as fait dans Indiana Jones, on te retrouve aussi depuis fin de semaine dernière dans Fiasco sur Netflix, et puis là, eh bien en ce moment, c'est La Recrue, c'est ce soir sur TF1, on peut dire que 2024 c'est ton année. Hein.
Ben personnellement je suis très heureux de ce qui m'arrive, et ouais 2024 c'est une année où il y a plein de projets dans lesquels j'ai tourné qui sortent, donc je suis très heureux, et à l'avenir, là j'ai pas mal de projets du coup qui arrivent, donc je suis très enthousiaste. Je peux pas forcément en parler.
Bah bien sûr.
Mais il y a aussi surtout le bac de français cette année. Hey. Donc là faut que je me concentre. Il faut que je travaille.
Pour l'avoir, effectivement. Et ça, on va croiser les doigts, évidemment, pour toi. En attendant, on va retrouver le personnage de Kevin que tu incarnes ce soir sur TF1. Et évidemment, eh bien, le personnage de Kevin va beaucoup nous faire rire. Et tu l'incarnes vraiment avec brio et délectation pour nous, spectateurs. Puisque, voilà, on a planté un peu le décor avec Laurent de l'histoire. Qu'est-ce qui t'a plu en premier dans ce rôle de Kevin, Laurent, justement, Ethan?
Ce qui m'a beaucoup plu chez Kevin, c'est que c'est quelqu'un qui a pas froid aux yeux. Il a pas peur du regard des autres. Il fera tout le temps des vannes, peu importe la situation. Il a beaucoup d'autodérision. Il rit beaucoup de lui, des autres. Et en fait, c'est juste quelqu'un qui aime s'amuser. Et à travers l'amusement, ça fait fonctionner et avancer le travail. Et donc ça, c'est drôle parce que ça agace Vincent qui, lui, est très rigide et très carré. Il adore que tout soit bien mis en place, que tout soit planifié. Et là, au contraire, il y a un gars qui arrive, qui s'en fout un peu de tout et qui...
C'est ça. Qui est un peu en dilettante, voilà.
Voilà, il fait les choses à l'instinct et ça fonctionne. Et ça plaît pas à Vincent. Ça lui plaît pas d'avoir tort.
Évidemment, mais on va voir qu'au fur et à mesure, alors si Kevin a une protection, on va découvrir, évidemment, ça va être un peu le fil rouge de cette saison, pourquoi le personnage de Judith le protège peut-être autant. Et puis on va voir aussi cette relation qui se noue avec Vincent au fur et à mesure, si au début c'est vraiment un couteau tiré, eh bien on a hâte de découvrir la suite pour voir comment, évidemment, va évoluer cette relation entre Vincent et Kevin. Mais une autre relation importante aussi, parce que Kevin, s'il s'insère un peu dans toutes ses affaires, c'est souvent, il a un bras droit dans cette histoire, et on va dire une compagnonne un peu d'infortune, c'est la brigadière d'accueil, et franchement elle est absolument géniale, et c'est vrai que tous les deux ça fait vraiment un joli duo.
Ça fait super plaisir d'entendre ça. Avec Andrea c'était génial, on s'amusait beaucoup sur le tournage, on rigolait beaucoup ensemble, en plus comme du coup on est dans la même tranche d'âge, ça matchait bien. En attendant de tourner, des fois on scrollait tous les deux sur nos tels, montrer des TikTok et tout, c'était drôle. C'était un super moment passé avec elle et même avec toute l'équipe. Et donc, je suis très heureux que ça se ressente à l'écran et que ça marche.
Et oui, ça va être une alliée, en tout cas de choc pour Kevin et pour l'aider dans toutes ces petites histoires. Les paysages du Pays Basque, on le disait avec Laurent il y a un instant, mais sont mis en valeur et magnifiques. Et est-ce que toi, tu connaissais cette région? Est-ce que tu as pu en profiter un petit peu, la découvrir aussi à travers ce tournage?
Bah, je la connaissais un peu. J'avais déjà passé des vacances très brièvement là-bas avec mes parents. Mais là, du coup, j'ai passé 4 mois là-bas. Et donc, j'ai pu vraiment découvrir la région et j'ai passé 4 mois de vacances, en fait. Et c'était super. Je pouvais aller tourner et ensuite, le soir, je pouvais me poser à la plage, manger des pizzas.
Des gâteaux basques.
Oui, des gâteaux basques. Ah, c'est tellement...
On sent en tout cas que tu t'es amusé et ça, c'est chouette et ça se sent à l'écran. On va espérer évidemment que ça cartonne. On va tout faire pour à vos côtés, en tout cas pour que ça marche ce soir. Et donc du coup, si l'enjeu, il va être fort, parce qu'évidemment, une saison 2 et une série récurrente pourraient peut-être s'installer. En tout cas, toi, est-ce que tu es partant pour que cette recrue s'installe déjà pour une saison 2 l'année prochaine? Est-ce que toi, t'as envie?
Bah, moi, ouais, je suis partant. C'est un personnage que j'adore, Kevin, et ben j'espère qu'il continuera de vivre et qu'on en apprendra plus sur lui.
Et oui, je suis sûr qu'il y a plein de choses à dire. Est-ce que t'as une scène?
Mais oui, il y a plein de choses à dire sur Kevin.
Ah ben je sens que ouais, on n'a pas fini d'en découvrir. Il va y avoir certainement des secrets. Il va y avoir certainement un truc de fou à la fin qui va nous faire évidemment attendre une saison 2 avec impatience. Mais est-ce que toi t'as une scène préférée?
Alors il y en a une, mais c'est un énorme spoil, donc non.
Donc pas celle-là.
donc non, pas celle-là, ouais. Mais sinon. Je pense que c'était la scène du casino, où Kevin s'enfuit du casino.
Ah oui, parce qu'on te fait courir hein, dans la série quand même. Hein. Faut dire que tu cours. Hein.
Ouais, oui, c'est ça. Mais en fait, parce que enfin, c'est plusieurs scènes, je pense. C'est globalement les scènes où je dois courir, où je dois faire des cascades, parce que je pouvais les faire moi-même pour pas mal de cascades. Et donc, j'étais très heureux. C'est trop drôle à faire. Moi, je kiffais, j'avais l'impression d'être un vrai agent secret.
Bah, c'est ça qui est génial. Si on remonte un an en arrière... Ethan, tapis rouge, Cannes, est-ce que pour un lycéen, est-ce qu'à un moment donné, tu te sens pas dépassé par tout ça?
Forcément, ça fait bizarre de retourner en cours après Cannes, par exemple, ou après des tournages, parce que c'est deux mondes totalement différents. Mais j'ai une famille qui est là, enfin surtout une mère mauricienne qui est là pour me garder les pieds sur terre.
Ouais, qui t'aide, qui t'épaule du coup.
Oui, mais oui, qui m'aide beaucoup et c'est grâce à elle que j'en suis là. Et mes amis aussi, enfin... Dans mes amis, les gens n'ont pas spécialement changé. Ils sont pareils avec moi et donc ça fait bizarre. Mais au final, les meilleures choses qui me sont arrivées, en fait, c'est mes proches. Et ben, je les aime toujours autant, donc je suis toujours autant heureux.
Et ben, c'est chouette. En tout cas, le petit Eddie d'Indiana Jones a bien grandi. On va le suivre dans La Recrue avec ce personnage de Kevin. On te suit dans Fiasco depuis le 30 avril dernier, depuis lundi dernier aussi. Un rendez-vous à ne pas manquer sur Netflix. Et il y a vraiment plein de belles choses qui arrivent. Et puis, on espère une saison 2. En tout cas, on est à vos côtés. Mon cher Ethan, merci d'avoir été avec nous. Et puis, on te retrouve ce soir dans La Recrue aux côtés de Judith Elzine et également Thierry Neuvik, Chloé Chaudoy et plein d'autres encore. Vous allez voir, le casting est ouf, les paysages sont ouf. Et vraiment, je vous encourage à découvrir les deux premiers épisodes. C'est parti pour 3 semaines de diff. Merci et à bientôt, Ethan.
À bientôt, merci beaucoup. Au revoir.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé va marier au premier regard avec un épisode ce soir avec de nombreux rebondissements comme chaque lundi. On va faire la connaissance de Laurie qui va devoir apprendre à exprimer ses sentiments alors que la lune de miel se poursuit pour Alice et Florian, compatibles à 78%. Les 22% d'incompatibilité pourraient bien faire leur apparition tant qu'à Romain, lui, les experts, lui trouveront-ils une deuxième compatibilité amoureuse? C'est ce qu'on découvrira ce soir sur M6 en attendant, eh bien, on retrouvera aussi le couple qui s'est dit oui la semaine dernière. Ludivine, qui était notre invitée lundi dernier, va laisser sa place à Raphaël pour aujourd'hui, qui est avec nous. Bonjour Raphaël.
Bonjour Alain, bonjour, merci de me recevoir.
Eh ben, c'est très gentil en tout cas d'avoir accepté notre invitation. On est très heureux de t'avoir, Raphaël, puisque on a eu très très peur pour toi, je t'avoue, lundi dernier, parce qu'on s'est dit, elle va jamais dire oui, Ludivine, c'est pas possible. On avait tous des doutes. Et puis voilà, il y a eu cette espèce d'effet waouh en vous voyant tous les deux, et c'était beau à voir, en fait, de voir un peu cette alchimie immédiate qui a pu se faire au premier regard entre vous.
Exactement, ouais, vous avez tout dit, hein, ça s'est très bien vu à l'écran et c'était la même chose en vrai. C'est-à-dire que quand elle est arrivée, ben tout de suite, dans le premier regard, c'est le cas de le dire, ben il y a eu ce petit truc. J'ai aimé ce qu'elle dégageait, voilà, son grand sourire. Elle était chaleureuse, elle était pétillante. Donc, c'est ce que j'étais venu chercher, cet effet-là, quoi.
Bon, et ben en tout cas, qu'est-ce qui t'a poussé, Raphaël, à participer déjà à cette émission ?
Ce qui m'a poussé, c'est que, bah bien sûr, j'avais envie de rencontrer la femme de ma vie. Ça, c'est la base, bien sûr. Et puis, bah, c'est vrai que dans mon quotidien, bah, je travaille beaucoup, je sors un petit peu, mais pas plus que ça non plus. Et bah, du coup, j'ai un peu de mal à trouver la femme qui me correspond, quoi.
Et il faut dire que tous les deux, vous avez un peu le même parcours avec Ludivine, où il y a 6 et 7 ans de célibat chacun de votre côté, en tout cas qui vous ont marqué. Et il y a vraiment, voilà, il y avait vraiment ce manque, et vous êtes un peu inscrits tous les deux pour les mêmes raisons. Et c'est ça qui est chouette quand on vit une aventure comme celle-ci. Alors passer des fois l'alchimie, voilà, des premiers jours, bah des fois les choses se compliquent un peu. Mais en tout cas, ce mariage, cette journée de mariage, a eu l'air de se passer sous les meilleurs auspices, hein, cette première soirée.
Ah oui, cette première après-midi, cette première soirée, honnêtement, c'était idyllique. Hein. Ça se voit à l'écran avec la symbiose entre les deux familles, entre elle et moi, bien sûr. On est sur la même longueur d'onde sur pas mal de choses. On a le même humour. Elle comprend mon humour, mon second degré. Ça réagit, donc c'est très bien. Ça me met à l'aise. Elle aussi est à l'aise. Donc ben moi, voilà, je suis quelqu'un de simple, naturel. Donc je suis lors de ce mariage comme je suis dans la vie de tous les jours.
Alors, c'est souvent ce qu'appréhendent les candidats. Est-ce que toi, t'as eu peur d'annoncer ça à tes parents, à ton père, notamment, de qui tu es très très proche ?
Peur, non, puisque moi, comme je l'avais dit, je pensais que mon père allait de suite bien réagir, en fait.
Ouais, ça n'a pas été forcément le cas au début. Il y a eu quand même une espèce de réticence, hein.
Ah, c'est clair. Donc ça, c'est vrai que ça m'a un petit peu surpris sur le coup. C'était difficile à anticiper, mais c'est vrai que de premier abord, j'aurais dit, qu'il aurait été directement fier, qu'il m'aurait félicité. Et voilà, mais en fait, pas du tout. Non, au début, c'était pas ça.
Alors, on va découvrir aussi votre voyage de noces dans l'épisode de ce soir. Hein, on va pas en dévoiler, évidemment, grand-chose. Mais dans ce qu'on a vu lundi dernier, en tout cas, on a eu l'impression que Ludivine était vraiment en attente de beaucoup de choses de ta part et que toi, des fois, t'étais un peu sur la réserve malgré tout. Ça peut être toujours aussi par peur d'aller trop vite par rapport à l'autre et de pas toujours être au même rythme.
Oui, alors c'est vrai que sur l'épisode de lundi dernier, ce que j'ai vu à l'écran sur ses inquiétudes, sur ses questionnements, tout ça, le jour J, je l'ai pas vraiment senti comme ça. En fait, toutes les questions qu'elle me pose, moi sur le coup, même quand elle me reprend sur des questions un petit peu de façon un petit peu dure, sur le coup, moi je le prends pas vraiment comme ça. Je vois quelqu'un qui a envie d'être un petit peu rassuré et qui pose des questions.
Ouais, elle te fait pas peur à ce moment-là, justement.
Mais à ce moment-là, honnêtement, je suis tellement dans le positif. Voilà, c'est idyllique, le cadre est incroyable. Je cherche pas le négatif, ou en tout cas, tu vois, j'essaie de voir que positif, en fait, ouais.
On sent en tout cas qu'il y a vraiment une fluidité entre vous deux pour cette soirée de mariage. Et on va découvrir donc ce soir, évidemment, puisque l'épisode démarre avec la première nuit de noces. Donc on va voir hein, si vous allez dormir ensemble ou pas. En tout cas, chacun y va un peu, un petit peu à tâtons dans ce genre de situation. Parce qu'il faut quand même bien imaginer, et pour les téléspectateurs et les auditeurs qui nous écoutent, c'est que vous connaissez depuis même pas 8 heures. Enfin, la situation est ubuesque, quoi, par moment.
Ah c'est clair, on se retrouve dans une situation où on doit se coucher avec sa nouvelle femme qu'on connaît depuis 8 heures, donc c'est une situation très originale et c'est compliqué de savoir exactement comment agir. Chacun agit comme il le sent, c'est compliqué de juger, à dire moi j'aurais fait comme ça, moi j'aurais fait comme ci. C'est très particulier comme situation, donc c'est difficile de se mettre à la place de se mettre à ma place, quoi.
En tout cas, on a l'impression qu'il y a une alchimie immédiate entre les deux familles, entre les deux groupes d'amis, ouais, etc. Vraiment, que ça soit à l'attente interminable de la cérémonie ou après à la soirée de mariage, on a vraiment senti une alchimie entre vos deux clans.
Ah ben complètement d'entrée, même avant que j'arrive devant les deux familles, je suis quand même pas très loin, du coup j'entends et j'entendais que ça riait quand même pas mal, donc du coup ça m'a un petit peu rassuré aussi. Et ensuite, quand je me suis retrouvé face aux deux familles, c'était fluide, voilà, il y avait de l'humour, mais ça j'avais pas de doute, je savais qu'avec ma famille ça allait, ils sont cool, ils sont toujours détendus, essayent de mettre une bonne ambiance, donc ça j'avais pas trop d'inquiétude. Donc quand je me suis retrouvé face aux deux familles, ça s'est confirmé, on était à l'aise. Et puis même le soir du mariage, c'est d'ailleurs ma cousine et une amie à Ludivine qui ont commencé à danser ensemble comme ça. pour cette anecdote. Et c'est comme ça que ça a commencé, où les deux familles se sont rejointes pour danser ensemble. Et la dernière anecdote, c'est qu'on n'a pas vu à l'écran, mais juste après que je... Enfin, en fin de soirée, je sais plus qui a proposé que je fasse un petit peu de piano pour que tout le monde puisse chanter dessus. Donc, on ne le voit pas. Mais en tout cas...
Par contre, on doit chanter à un moment donné quand même. Hein, la chanson est magnifique.
Ouais, on va chanter. Ah, c'est gentil, merci. Bon, ce n'est pas terrible la prestation, désolé, mais avec le stress... c'était pas évident. Ah en tout cas, voilà, pour finir, on a...
En tout cas, Ludivine, ouais, qui est très sensible, elle a été très, très marquée. Hein.
Ouais, c'est clair. C'est clair, ça l'a touchée, donc c'était le but. Voilà, je me suis ouvert, j'ai pris mon courage à deux mains. Parce que comme je l'avais dit, bah, c'est quelque chose que j'ai jamais fait de ma vie. Moi, je fais ça dans ma chambre tranquille, chez moi tout seul. Donc là, bah, c'était l'occasion. Et je sais que je l'aurais regretté de pas l'avoir fait si je l'avais pas fait. Donc, j'ai voulu le faire.
Elle avait une crainte, Ludivine, qu'elle a remis plusieurs fois sur le tapis lors de cette première soirée de mariage, c'est la différence d'âge entre vous, puisque elle a 3 ans de plus que toi, et évidemment, voilà, c'est une femme d'affaires, établie. Elle avait un peu peur, effectivement, de cette maturité qui pouvait peut-être te manquer. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'a un peu fait peur, le fait qu'elle ait 3 ans de plus que toi, et voilà, peut-être qu'à un moment donné, ça peut faire avoir des craintes?
Alors, peur, non. Nouveau, oui. Puisque comme elle me l'a demandé dans la voiture, elle m'a demandé si j'avais l'habitude de fréquenter des femmes plus âgées que moi. J'ai répondu la vérité, c'est que non, de base, c'était plus dans des femmes de 25, 30 ans, on va dire, maximum. Mais après, non, ça m'a pas fait peur, puisque ça, il n'y a que 3 ans d'écart. Comme je l'ai dit, voilà, j'étais prêt à la découvrir sans arrière-pensée et naturellement, quoi. Mais c'est vrai qu'elle, ça l'a un petit peu tracassé, et en voyant les images à la télé, je pensais pas que ça l'avait tracassé autant.
Ah oui, puis elle a besoin d'exprimer hein, aussitôt. Hein. Là, pour le coup, on en a discuté avec elle la semaine dernière, mais c'est vrai que elle a besoin tout de suite de qu'il n'y ait pas de non-dit et d'aller cash poser les questions. Et c'est ce qu'on verra. Il y aura aussi des mises au point pendant cette lune de miel qu'on verra ce soir. Même question qu'elle lui dit, on ne sait pas encore où vous partez tous les deux en lune de miel, mais je lui ai demandé la semaine dernière, elle, quels ont été ses souhaits qu'elle a exprimés à la production où elle aimerait en tout cas vivre cette lune de miel. Elle m'a répondu la Grèce. Toi, qu'est-ce que t'as répondu pour le coup, quel est l'endroit où tu rêverais d'aller en lune de miel avec Ludivine? On va voir si c'est ça ce soir.
Ouais, ce serait une île sympathique, une île voilà, soit la Crète, soit Sicile, Baléares, Malte, voilà, une petite île sympa comme ça, ce serait top.
Et ben voilà, on va donner une petite indication aux auditeurs. Peut-être que la destination de votre lune de miel est dans les 4 que tu as dit, on sait pas, on verra. En tout cas, c'est peut-être ce soir à 21h10 sur M6. Vous faites plaisir à voir, en tout cas, tous les deux. On va suivre la suite de vos aventures mariées au premier regard avec Ludivine, Raphaël. Et puis, comme on le disait, donc merci, on découvrira beaucoup ce soir Laurie. On va continuer à découvrir la lune de miel de Alice et Florian. Et puis, on verra si Romain, après son échec de sa rencontre avec Camille qui n'a pas eu lieu, si les experts lui ont trouver une deuxième compatibilité. En tout cas, c'est un épisode à rebondissement, encore une fois, qui vous attend ce soir. Merci beaucoup, Raphaël.
Et merci à vous, Alain.
Et à bientôt.
Et bon épisode à tout le monde. À bientôt.
La semaine prochaine, dans Marié au premier regard, Romain remet pour la deuxième fois sa vie entre les mains des experts. À ce stade de l'expérience, le défi à relever est immense pour Estelle et Gilbert. Alice et Florian ne cessent de se rapprocher.
C'est un très beau début de relation.
Mais l'évidence qu'ils ressentent est-elle trop intense pour oublier les 22% de non-compatibilité? Et nous retrouverons Raphaël et Ludivine qui commencent leur vie à deux. Mais entre la jeune femme très exigeante et son mari qui n'a jamais vécu avec une femme avant elle, la lune de miel ne sera pas de tout repos.
C'est insensé, un peu comme situation. Mais quand ça arrive, en fait, on n'est jamais prêt.
Nous ferons la connaissance de Laurie, une célibataire unique en son genre.
Je suis quelqu'un qui n'est jamais dans la séduction.
Une personnalité si différente de tous les autres participants que les experts vont lui demander l'impossible si elle veut faire partie de l'expérience.
Je stresse.
Notre coup de cœur télé consacré à TF1 qui va programmer la suite et le grand final de sa série Attraction jeudi soir à 21h10. Un film qui avait été couronné meilleure série francophone étrangère au festival de la fiction télé de La Rochelle et dont on attendait tant la diffusion. Et à cette occasion-là au festival, eh bien, nous avions rencontré Laura Sépul avec laquelle nous sommes restés en contact justement. Et Laura est avec nous et y joue le rôle d'Agathe. Bonjour Laura.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On est complètement embarqué dans cette histoire d'emprise, dans l'histoire de ce couple avec Agathe et Fred. Un couple apparemment, voilà, sans histoire, où tout va bien, où la cellule familiale rayonne jusqu'au moment où elle va basculer. En tout cas, c'est ce qu'on a vu déjà avec les deux premiers épisodes la semaine dernière, jusqu'au moment où cette cellule familiale va éclater et basculer dans le drame. Et il est vrai que l'emprise est un peu au cœur de cette histoire quand Agathe découvre un peu l'horreur et où elle soupçonne l'homme avec qui elle partage sa vie d'être un meurtrier ou un serial killer. C'est assez dingue, c'est très addictif. On a envie évidemment de voir très vite la fin pour comprendre un peu tout ça. C'est ce qui t'a plu en premier dans ce projet, en tout cas quand t'as lu le scénario, Laura?
Alors, ce qui m'a plu principalement dans le projet, c'est d'abord la qualité de l'écriture. La série a été écrite par une romancière belge qui s'appelle Barbara Abel et qui a énormément de talent et qui est accompagnée par Sophia Perrier, qui est une très grande scénariste. Donc, j'ai trouvé d'abord que c'était extrêmement bien écrit. Et j'ai eu la chance, en fait, que le réalisateur et le producteur pensent à moi pour le rôle d'Agathe dès le départ. Donc, j'étais embarquée sur le projet assez vite et donc, ils ont pu aussi écrire en fonction de qui j'étais, de ce que je proposais comme actrice. Et puis, moi, je suis quelqu'un, Laura Sepulpe, pas Agathe, mais qui s'implique très fort dans cette cause qui est les violences faites aux femmes. Et si moi, je peux, c'est le vecteur que j'ai trouvé pour en parler, pour pouvoir ajouter ma pierre à l'édifice, quoi.
Alors, il y a des scènes vraiment délicates, hein, pour le coup, avec Lannick Gautry. Et c'est vrai qu'il est très connu pour avoir un respect énorme et justement être un comédien absolument hors pair. Et il nous glace le sang, il faut le dire, dans cette série Lannick qu'on aime tant. Et la rencontre...
Il est impressionnant.
Il est impressionnant. Oui. C'est complètement dingue. La rencontre entre vous deux, comment ça s'est passé? Comment vous êtes appréhendé un peu pour jouer toutes ces scènes un peu difficiles des fois?
Alors, voilà, comme vous l'avez dit, Lannick est vraiment quelqu'un d'extrêmement charmant et bienveillant et très professionnel. Faut pas l'oublier. On avait la chance d'être entouré par des cascadeurs, hein, et des gens qui préparaient beaucoup. Donc parfois, donc j'ai une doublure aussi pour les scènes plus compliquées. Et puis pour les scènes qui sont beaucoup plus émotionnelles, que vous avez pu voir dans les deux premiers épisodes, notamment la scène de crise où j'ai des soupçons, c'est lui qui m'empoisonne, des choses comme ça. Ben c'est fait avec beaucoup de bienveillance, de la préparation. Et puis ben c'est un rôle où je dois m'impliquer, ça c'est sûr. Si on s'implique pas, ça touche pas et on n'y croit pas. Et moi j'avais très peur avec Agathe de la rendre un petit peu embêtante, ennuyante, et donc il fallait que je m'implique à fond pour la rendre sensible et puis qu'on puisse s'identifier à elle, quoi.
Alors tout commence effectivement la semaine dernière par un meurtre qui a été commis dans un hôtel où logeait justement Fred, et donc jusqu'au moment où Agathe va réussir à lui faire avouer que c'est lui, lui va évidemment tout tenter pour lui dire qu'il y est pour rien, que c'est un accident, etc. Ouais. Et elle va le croire dans un premier temps, Agathe, hein, puisque jamais elle va pouvoir imaginer à quel point effectivement Fred peut être toxique.
Ah ben bien sûr, elle est persuadée. Il n'y a pas de raison qu'elle ne le croit pas. Elle l'aime, elle est amoureuse de lui depuis 15 ans. Et puis, il a vraiment une emprise sur elle. Tout ce qu'il dit, elle dit oui, amène à tout. Elle ne se pose pas la question. Elle a mis lieu d'imaginer que tu es dangereux. Et surtout, elle n'a aucune raison de ne pas le croire. Et elle fait l'effort de le croire. Et surtout, elle ne veut pas briser sa famille, ni son petit confort, ni sa petite vie bien rangée. Donc, évidemment qu'elle va le croire.
La série était diffusée il y a un an en Belgique. Comment était accueillie, ouais, justement, la fiction chez toi là-bas?
Très très bien, très très bien. Après, ben, chez nous, c'est un tout petit pays, hein, donc les répercussions sont pas du tout les mêmes. On peut pas comparer un Audimat français qu'un Audimat belge, mais c'est une série qui a très très bien marché. En tout cas, j'ai eu beaucoup de bons échos, et la plupart du temps, les gens me disaient à partir du moment où on a vu le premier épisode, on peut plus arrêter. Donc, je crois que c'est bon signe.
Le prix du Festival de la fiction télé de La Rochelle aussi, ça a été une sacrée reconnaissance, mine de rien.
Ah oui, en plus, on s'y attendait vraiment pas. Pour vous dire à quel point on s'y attendait pas, c'est que Lannick et moi, on était rentrés parce qu'on tournait tous les deux sur d'autres choses, moi en Belgique et lui en France. Et donc, pour être en forme le lundi, on était tellement persuadés de ne pas avoir le prix. C'est les scénaristes qui ont ce prix. Donc, on était vraiment ravis et on était plus que ravis, ouais. On était... super, super, super content et super surpris.
Alors, on va découvrir la suite et le final de la série. C'est déjà, bien sûr, aussi sur TF1+.
Plus,
hein. Pour ceux qui sont abonnés à TF1+ Premium, il est possible aussi de découvrir les épisodes en avant-première. Et vous allez voir, c'est très addictif. Hein. C'est ce qu'on disait. Toi, tu as lu le scénario d'une traite ou pas?
En général, quand on nous propose des rôles comme ça, on avale les scénarios. Et puis, on est tellement content de pouvoir travailler sur des beaux projets comme ça que on fait les choses bien. On essaye de faire les choses bien.
Ben c'est clair. Quelle a été la scène la plus difficile peut-être pour toi, Laura?
La fin de l'épisode 5, la nuit sous la pluie, vous comprendrez.
Voilà, qu'on verra jeudi aux alentours de minuit, voilà. Du coup.
C'est ça, où c'était physique et voilà, physiquement devoir porter un gros poids lourd et et tirer et sous la pluie et voilà, c'était un peu compliqué. C'était du sport et c'était intense émotionnellement. Donc il fallait combiner les deux.
On termine par tes projets. Laura, sur quoi tu es en ce moment? Est-ce qu'il y a des choses aussi qui arrivent peut-être en cinéma, théâtre ou télévision?
Sur un Netflix Monde, au mois de mai, un film espagnol qui s'appelle El Correo qui sort, où j'ai le deuxième rôle, où un chouette film espagnol, un film d'action avec un acteur qui s'appelle Aaron Piper, que je pense que les adolescents et adolescentes et jeunes femmes et jeunes hommes connaissent très très bien. Parce que c'était la star d'une série qui s'appelle Élite,
ouais.
Qui est sur Netflix.
Oui.
Donc ça arrive fin mai. Et puis après, j'ai le tournage prévu cet été, oui.
Mais
ça, je ne peux pas encore en parler.
Mais ça sera l'occasion de revenir.
Tout va bien. Ben voilà, ce sera l'occasion de revenir. Merci beaucoup.
Bon, on te dit à bientôt. En tout cas, on te retrouve dans Attraction aux côtés de Lannick Gautry. C'est jeudi à 21h10, le grand final de votre mini-série. C'est sur TF1. Merci à toi et on va se quitter avec la bande-annonce. À très vite. Merci Laura.
Merci à vous. Merci, au revoir.
Bonjour.
Pas maintenant, je colle.
Bah justement.
Oh.
Je t'ai inscrit à la lutte.
Tu vas être trop stylé là-dedans. T'as besoin d'aide pour faire ta valise?
Oh, papa!
Dis au taxi d'attendre!
Ah, faites des gosses.
Ciao, bon voyage.
Il y a une femme qui est morte à l'hôtel. Elle était au même étage que nous.
T'as rien à me dire?
Quand je suis rentré, je l'ai croisée dans un des couloirs de l'hôtel.
Il y a une enquête qui a été ouverte.
Je vous présente Monsieur Chartin, il est de la police.
Fred, c'est quoi cette histoire d'enquête?
Elle est devenue complètement hystérique. Ce qui s'est passé après, je sais pas comment c'est arrivé.
Et tu l'as laissé comme ça? Et pourquoi t'as fait ça?
Pourquoi t'as pas appelé l'ambulance?
Non, je sais pas pourquoi j'ai pas appelé l'ambulance, je sais pas!
Et notre coup de cœur télé est consacré à Ici, tout commence et c'est l'événement cette année puisque l'Institut Auguste Armand va être délaissé de certains de ses élèves et délocalisé en Bretagne pour notre plus grand plaisir puisque deux brigades vont s'affronter à la Coupe de France de cuisine et on va dire que le personnage de Kelly va tomber de haut quand elle va apprendre effectivement que cette Coupe de France est en Bretagne où elle va y partir de justesse d'ailleurs et c'est sur des terres bien connues d'elle et de sa mère qu'elle va donc se retrouver. Et ça va créer évidemment bien des intrigues autour du personnage de Kelly. Et Axel Dodier, justement, est avec nous pour en parler. Bonjour Axel.
Bonjour.
Merci d'être là. Je suis très heureux de te retrouver depuis septembre, où franchement, vous avez vécu un bain de foule tous ensemble au Festival de la Fiction Télé de La Rochelle. Et c'est pour notre plus grand plaisir, du coup, que tu reviens un peu sur la côte atlantique. Enfin, même Manche, hein, on va dire, quasiment, puisque c'est en Bretagne que va se dérouler le théâtre des deux prochaines semaines dans Ici, tout commence. Ça fait du bien d'aller tourner un peu ailleurs, justement, de prendre l'air.
Qu'est-ce que ça fait du bien, qu'est-ce que ça fait du bien. Et puis je suis une très grande amoureuse de la Bretagne, donc franchement c'était merveilleux, vraiment.
Quand on vous a appris justement que certains d'entre vous allaient partir pour tourner un peu en extérieur comme ça, quelle a été votre réaction?
J'étais absolument folle de joie, et plus je lisais les scénarios, plus je connaissais les noms des gens qui allaient venir dans cette arche, plus j'étais complètement folle de joie. Franchement, tout processus créatif autour de cette arche c'était dément, vraiment. Tout était dément et tout m'a procuré énormément de joie et de plaisir. Vraiment.
Alors c'est à partir de jeudi qu'on va voir ces épisodes, hein, puisqu'à la base ça devait être à partir de mercredi, mais attention, mercredi pas d'Ici tout commence à cause du passage de la flamme olympique. Donc c'est déplacé à jeudi, on va pouvoir découvrir ces premiers épisodes du côté de la Bretagne. Alors ça a duré quasiment 2 semaines, il faut dire quand même que le personnage de Kelly, il s'en a fallu de peu pour qu'elle n'y parte pas à cette Coupe de France de cuisine, hein, quand même, hein.
Oui, en fait, on va découvrir que Kelly et Laetitia ont eu un passé là-bas, dans cet endroit où va se dérouler la Coupe de France. Donc déjà, il y a ça. Il y a aussi des histoires où on va empêcher Kelly de partir, effectivement. Mais son côté battant et son côté débrouillard, elle va faire en sorte de pouvoir y aller quand même, effectivement.
On lui fait confiance là-dessus, sur ce côté débrouillard. Et puis, elle va devoir faire face certainement à quelques petits mensonges de Laetitia qu'elle découvrira au fur et à mesure. Parce qu'autrement, ça serait pas Laetitia. Parce qu'évidemment, Florence Coste va faire partie aussi un peu du voyage. Jamais Kelly sans sa maman. Des fois, son grand désespoir. Mais il faut dire que Florence nous fait tellement rire aussi.
Ah oui, oui. Non, ah oui, elle nous fait tellement rire. Et puis moi j'ai trop envie de jouer avec elle. Je veux dire, ma Flo, il faut qu'elle soit avec moi partout parce que je l'aime. Non, puis, effectivement, au-delà de ça, la relation Kelly-Laetitia va prendre une autre tournure pendant cette arche. On va en apprendre beaucoup plus sur L2. Donc c'est vraiment très intéressant et on a pris beaucoup de plaisir à jouer et à travailler ça, vraiment.
Oui, parce que là, on va découvrir aussi des choses un peu de leur passé et du coup un petit peu aussi ce qui s'est passé avant leur arrivée à l'Institut. On va se retrouver basculer un peu dans les histoires du passé, justement des Rigauds, hein. dans cette arche.
Ouais, c'est ça, exactement, c'est tout à fait ça. Il va y avoir aussi d'autres enjeux, évidemment, sous couvert d'un décor de Coupe de France. Mais effectivement, on va découvrir leur passé un petit peu plus, découvrir qu'est-ce qui s'est passé avant qu'elles arrivent à l'Institut, pourquoi est-ce qu'elles sont parties, les vraies raisons du départ. Donc, c'était intéressant à jouer, intéressant à travailler, et je pense, j'espère que ça va être intéressant à regarder.
Mais en tout cas,
on a mis tout notre cœur pour.
Mais j'en suis sûr, et puis on va suivre ces deux brigades, justement, avec celle de Jasmine aussi, et ces confrontations que ça va donner. Il faut dire que le personnage de Kelly a vécu un sacré parcours dans la série. Quand on remonte en arrière et qu'on découvre cette petite Kelly qui savait pas lire, qui était passionnée de cuisine, mais qui savait pas comment aborder tout ça, qui s'est fait aider, on a découvert des secrets de famille avec le personnage de Salomé. Quand tu reviens sur 3 ans de parcours de Kelly, tu te dis qu'est-ce que elle a évolué quand même.
Ah ouais. Là, du coup, de le réentendre, en plus, ça me fait quelque chose.
Ah, t'as vu, je t'ai fait un résumé en une minute, même pas.
Ouais, non, mais en plus, c'est très, très bien résumé. Non, non, c'est vrai que c'est fou. C'est fou. Je suis tellement fière de toute cette trajectoire, de ce personnage que j'aime tellement. Donc, non, je trouve que c'est une trajectoire vraiment héroïque. Je suis très très heureuse du parcours, et en plus de ça, ce n'est pas fini.
J'ai bien l'impression. Et puis Lionel va faire partie du voyage aussi un petit peu ou pas?
Absolument, il fera partie du voyage, oui.
Ah, il va être là pour épauler Kelly, on espère. Alors peut-être de façon, des fois, on ne sait pas, parce qu'on va dire que Lionel quand même est pas toujours très adroit quand même avec elle. C'est moins qu'on puisse dire.
Effectivement, mais il l'aime tellement et il veut tellement bien faire que c'est ça qui le rend touchant aussi.
Mais c'est vrai, t'as vu, on en rate pas une bouchée. Hein.
Il est pas toujours très adroit, effectivement.
Bon, en tout cas, on va se délecter de voir tous ces paysages. Quand vous êtes arrivé là-bas, que vous avez tourné dans des lieux assez somptueux, dans le château, justement aussi, parce que vous avez tourné aussi dans un château là-bas, il y a des paysages qui sont magnifiques. En Bretagne, ça change un peu, mais qu'est-ce qui t'a le plus épaté quand t'es arrivé là-bas? Même si tu connaissais déjà un peu la Bretagne, j'ai l'impression.
Oui, je connaissais un peu et j'étais déjà allée dans les deux villes où on a tourné. Mais en fait, j'étais allée comme ça de passage et tout est vraiment magnifique là-bas. Les paysages sont hyper bucoliques, la nature s'étend sur des pèves. Hein, vraiment, ça s'étend sur tellement loin. L'odeur de la mer, c'est quand même très sympa aussi. L'ambiance un peu avec des petites crêperies, tout ça, enfin... Tout est vraiment ravissant là-bas, je trouve. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette région, vraiment.
Alors, puisqu'on est dans une série sur la cuisine, vous avez pu déguster des Queen Amman ou pas?
Mais non, j'ai loupé ça.
Mais même pas, c'est pas vrai. T'as jamais goûté un Queen Amman, c'est pas possible.
Non, je suis navrée, pardon les Bretons, hein, mais non, je me suis concentrée sur vos crêpes. Je suis désolée.
C'est déjà bien le caramel au beurre salé, j'espère.
Oui.
Bon, eh bien écoute, on va suivre évidemment toute cette intrigue qui va nous emmener donc pour notre plus grand plaisir en Bretagne à partir de jeudi dans Ici Tout Commence. Pendant 2 semaines, on va suivre cette Coupe de France de cuisine. Axel, est-ce que t'as d'autres projets pour la suite aussi? Est-ce qu'il y a d'autres choses, fiction, télévision, cinéma ou théâtre dans lesquels on va te voir dans les prochains mois?
Alors théâtre, effectivement, je jouerai une pièce au Festival d'Avignon qui s'appelle Les Marchands d'Étoiles.
Cet été, du coup, en juillet.
Mis en scène, voilà, c'est ça, qui est mis en scène par Julien Luguette, qui joue le chef Landiras.
Bien.
Voilà.
Qui fera partie du voyage aussi, du coup, en Bretagne. On le spécifie quand même aussi.
Absolument.
Que Zachary sera là.
Exactement. C'est ça. Et après, c'est prévu qu'on le joue sûrement à Paris et en tournée, mais voilà, donc oui, c'est très très excitant.
Eh bien, on t'attend effectivement dans nos régions pour voir cette pièce, et puis on te dit à très vite en tout cas, Axel. Merci d'avoir été avec nous. On va suivre évidemment le personnage de Kelly et tous les autres dans Ici Tout Commence. C'est du lundi au vendredi, on va commencer l'amorce de tout ça évidemment dès aujourd'hui à 18h35, et puis dès jeudi, eh bien on va dire que les comédiens arriveront là-bas pour notre plus grand plaisir. À bientôt et merci.
Merci beaucoup, à bientôt.
À très vite, Axel.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. À tout de suite. Chut, on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook. Chut, on écoute la télé.
On dormira quand on sera mort, on va danser encore. Y'a trop de trucs à faire sur cette planète. Y'a trop de trucs à faire.
On joue avec le feu, on joue avec nos vies. On défie tous les interdits.
On devient petit quand on n'est plus nous-mêmes. Pas besoin de nous faire morale, ça en vaut pas la peine. On est dans le déni, on est dans le délire. Notre présent est fade, on veut l'embellir. Y'a trop de trucs à faire sur cette planète. On tient les manettes, on évite les tempêtes. Peu de temps, ça passe vite, on est déjà hier. On vit pas d'envie d'ici, on vit d'envie d'ailleurs. Chasser le pire, garder que le meilleur.
On dormira quand on sera mort. On va danser encore. Y'a trop de trucs à faire sur cette planète. Y'a trop de trucs à faire sur cette planète. On dormira quand on sera mort. On va danser encore. Y'a trop de trucs à faire sur cette planète. Y'a trop de trucs à faire, ouais, y'a trop de trucs à faire.
On se raconte toujours que les bons souvenirs. Les potes rangés sont les premiers qui n'ont plus rien à dire. T'es moins marrant quand t'en es plus. Et on connaît par cœur tes anciennes histoires de cul. Rien n'est figé, rien n'est fini. Le monde est petit sauf si tu le saignes à l'infini. On se met trop de pression, on se pose trop de questions. Y'a pas de bout du tunnel, y'a qu'un tunnel sans fond. Peu de temps, ça passe vite, on est déjà hier. On vit pas d'envie d'ici, on vit d'envie d'ailleurs. Chasser le pire, garder que le meilleur.
On dormira quand on sera mort. On va danser encore. Y'a trop de trucs à faire sur cette planète. Y'a trop de trucs à faire sur cette planète. On dormira quand on sera mort. On va danser encore. Y'a trop de trucs à faire sur cette planète. Y'a trop de trucs à faire, ouais, y'a trop de trucs à faire.
Chemin, y'a que des mauvais choix. Chasser le pire, garder que le meilleur. Prendre de la hauteur, y'a rien de plus important que de faire n'importe quoi. Y'a pas de mauvais chemin, y'a que des mauvais choix. Chasser le pire, garder que le meilleur.
On dormira quand on sera mort. On va danser encore. Y'a trop de trucs à faire sur cette planète. Y'a trop de trucs à faire, ouais, y'a trop de trucs à faire. On dormira quand on sera mort. On va danser encore. Y'a trop de trucs à faire sur cette planète. Y'a trop de trucs à faire sur cette planète. On dormira quand on sera mort. On va danser encore. Y'a trop de trucs à faire sur cette planète. Y'a trop de trucs à faire, ouais, y'a trop de trucs à faire.
Tous les bonus audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube
et notre page Facebook. Chute, on écoute la télé.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, coup de cœur ciné pour un film qui est sorti il y a une dizaine de jours au cinéma que je vous conseille vraiment de découvrir. Après L'étudiante et Monsieur Henry, Venise n'est pas en Italie ou encore La dégustation où on avait la chance de l'avoir reçu, le réalisateur Yvan Calberac nous rejoint, est en ligne avec nous pour la sortie du film N'avoue jamais. C'est une belle comédie à découvrir dans les salles en ce moment. Bonjour Yvan et merci d'être avec nous.
Bonjour.
Alors Yvan, il faut quand même signaler, et moi je te félicite pour ça, c'est que c'est le plus beau démarrage, je crois, de ta carrière en cinéma, pour le coup, que N'avoue jamais est le film qui a attiré, notamment en première semaine, le plus de spectateurs. C'est chouette ça, c'est vraiment une belle récompense.
Et quatrième meilleur démarrage du film français de cette année, donc c'est mon plus gros score, je suis vraiment très heureux, j'ai des retours très forts de la part du public, c'est incroyable.
Alors c'est vraiment une histoire de famille et puis en même temps, l'histoire de François et de Annie qui mènent une vie paisible, ils sont mariés, c'est un couple indéfectible, c'est un exemple pour leurs trois enfants aussi qui sont incarnés de main de maître par Sébastien Chassagne ou encore Joséphine Demeau également. Et donc un jour par hasard en rangeant le personnage de François incarné par André Dussolier qui est absolument incroyable encore une fois, va apprendre au détour d'une lettre que sa femme 40 ans avant avait eu un amant sous les traits de Boris par Thierry Lhermitte et il décide, menu militari comme il dirait, parce que c'est un ancien militaire à la retraite, et ben d'aller régler son compte et d'aller lui casser la gueule carrément à Nice. Mais c'est que le début et le prétexte d'un voyage qui va les reconnecter à eux-mêmes aussi, et c'est ça qui est vraiment chouette dans cette histoire, Yvan.
Oui, c'est vrai que c'est à la fois une histoire très comique parce que voilà, c'est l'histoire d'un homme jaloux qui découvre un adultère qui date de 40 ans. Sa femme lui dit, il y a prescription. Lui, ça lui parle pas du tout, le concept de prescription. Et puis, comme c'est avec un ami à lui de l'époque, et qu'il adore sa femme, hein, parce que c'est un homme qui, 50 ans plus tard, aime toujours autant sa femme, il veut pas se venger sur elle. Du coup, il va essayer de se venger sur cet ancien amant mais avec 40 ans de retard et à 60, plus de 70 ans, c'est pas simple d'en venir aux mains. Et puis finalement, cet amant va se révéler hyper sympa et c'est avec le début, effectivement, comme vous dites, de beaucoup de rebondissements et d'aventures. Et lui, il va vivre de cauchemar en cauchemar, mais en même temps, il va grandir. Et si le film s'appelle N'avoue jamais, tous les personnages dans ce film ont un secret et il va découvrir tous ces secrets.
Alors, les trois enfants sont incarnés par Gaël Giraudot, on le disait, Joséphine Demeaux et Sébastien Chassagne. Eux aussi recèlent quelques petits secrets dans le personnage de Joséphine Demeaux, hein, qui incarne Capucine. Et donc, il y a aussi tout plein de petits secrets de famille qui vont se révéler comme ça au fur et à mesure, mais qu'on va pas vous dévoiler, évidemment. Moi, ce qui m'a fait très très plaisir, je t'avoue, Yvan, c'est de voir aussi ce petit clin d'œil avec Michel Bougenat, et de voir André Dussolier et Michel Bougenat partager à nouveau une scène ensemble. Qu'est-ce que ça fait du bien? Et puis, évidemment, ça nous fait penser à Roland Giraud aussi par la même occasion.
Ouais, c'était la première fois que Michel Bougenat et André Dussolier rejouaient ensemble depuis 3 hommes et un couffin. Ça fait 40 ans, mais leur complicité est restée intacte. C'est une scène d'ailleurs de pure comédie qu'ils ont adoré jouer ensemble. D'ailleurs, maintenant, ça leur donne envie de refaire d'autres films ensemble. Moi qui les connaissais tous les deux séparément, ça a été un bonheur de les réunir et c'est une scène, en l'occurrence, très marrante qu'ils ont à jouer ensemble.
Oui, parce que toi aussi, étant un enfant certainement de 3 hommes et un couffin, j'imagine, toi, derrière le combo, en tant que réalisateur, l'émotion que ça a dû être à les diriger tous les deux.
Ah ouais, puis c'est vrai que moi, j'ai grandi avec ces comédies-là et c'est vrai que j'essaie de m'inscrire à mon Michel, bien sûr, mais dans cette tradition-là de grandes comédies françaises comme on les a tant aimées, voilà, en étant à la fois élégant et en même temps où on se marre vraiment, quoi, voilà. Et en même temps, il y a de l'émotion dans 3 hommes et un couffin, il y avait de l'émotion aussi. Et ces 3 mecs qui avaient face à un bébé, c'était très touchant. Voilà, j'adore ce mélange d'humour et d'émotion.
Oui, c'est vrai que on a vraiment un ascenseur émotionnel assez important quand on regarde ton film. Alors évidemment, je parlais du duo, hein, de André et de Michel, mais évidemment André Dussolier et Sabine Azéma, comme on l'a oublié, ce couple qui a hébergé Tanguy pendant tant d'années aussi. C'était vraiment chouette de les voir aussi rassemblés encore une fois dans une autre histoire en plus.
Oui, et puis le film montre qu'on peut s'aimer à tout âge, qu'il n'y a pas d'âge pour être jaloux, qu'il n'y a pas d'âge pour retomber amoureux, qu'on ait 30, 40, 50 ans ou plus de 60.
Et qu'il n'y a pas d'âge pour se reconquérir aussi.
Voilà,
parce que ça parle
ça.
Aussi de reconquête quand même.
Ça parle aussi de reconquête. Et si nos cœurs changent parfois un peu, en fait nos cœurs restent des cœurs d'adolescents. Et quand on y met une dose de comédie, voilà, c'est vrai que le sentiment amoureux peut, on est parfois maladroit, on est parfois trompé. Donc voilà, c'est l'occasion de rire beaucoup de tout ça. Et en même temps, effectivement, ça parle de, voilà, de gens qui s'aiment à n'importe quel âge. Et ça, je trouve que c'est beau de montrer ça.
Thierry Lhermitte est hilarant, évidemment aussi. Je dois avouer. Et puis pour les fans des Bronzés, ben, vous verrez que ses fesses n'ont pas changé en 40 ans.
C'est vrai qu'il y a une scène de déshabillé de Thierry Lhermitte. Et c'est vraiment lui. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Moi, je suis à l'aise avec mon corps. Donc, il est encore très beau, très charmant, particulièrement dans ce film, je trouve. Et en même temps, très drôle. Il joue un mec un peu, lui, il le définit comme un mec un peu moyen, un peu loser, mais en même temps, qui ne montre pas de charme et qui n'a pas de remords à redraguer une ex de 40 ans sous les yeux de son mari. Il a tout étouffé, mais en même temps, dans une manière très zen. Donc, ça rajoute aussi beaucoup dans la comédie.
Toi qui as souvent justement adapté tes pièces de théâtre au cinéma, on ressent cette patte justement, puisqu'il n'y a pas eu la pièce, hein, de N'avoue jamais, mais on ressent cette patte théâtrale malgré tout. Est-ce que tu peux imaginer à l'avenir faire la chose dans l'autre sens ce coup-ci et peut-être adapter ce film au théâtre?
Mais c'est possible parce que vu le succès du film, on en parle beaucoup. C'est
ça vrai m'étonne que, pas parce qu'il y a quelque chose de très théâtral.
Oui, moi j'adore le théâtre parce que dans les comédies on rit énormément. Et moi je voulais essayer d'importer ça au cinéma, qu'on rit autant au cinéma que quand dans une salle de théâtre. Et là il y a un comique de caractère, il y a un comique de dialogue, il y a aussi un comique burlesque, visuel. Donc ça joue sur plein de genres de comiques qui sont souvent utilisés au théâtre, effectivement. Ça marche aussi très bien au cinéma.
Et puis c'est vraiment un film de comédien, comme je dis quand je suis ressorti de la séance.
Ah oui.
La première chose je me suis dit, c'est vraiment un film de cinéma, de comédien. On a des comédiens qui jouent, qui se donnent la réplique, qui on voit qui s'amusent et qui nous amusent aussi. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment beau à voir. Donc vraiment merci.
Ils sont en grande forme. Hein.
C'est clair.
Je crois que André Dussolier, Sabine Azéma, qui allait rire l'ermite, dans ce film, ils sont en très grande forme. Ils sont, moi, je les trouve incroyables, vraiment. Incroyable.
Ça s'appelle N'avoue jamais, c'est en ce moment dans les salles, ne le ratez pas, c'est sûr, c'est près de chez vous, dans un de vos cinémas. Précipitez-vous-y pour aller le voir, vous allez passer un bon moment, vous allez rire, vous allez être ému dans ce nouveau film d'Yvan Calberac. Merci beaucoup Yvan. C'est quoi la suite? Raconte-nous.
Merci.
Est-ce que tu as des projets?
Eh bien, je prépare une pièce pour le Festival d'Avignon qui s'appelle Light, c'est sur les réseaux sociaux. Et puis sinon, j'ai mon autre pièce de tête qui s'appelle Glenn, naissance d'un prodige qui avait gagné plusieurs Molières, qui revient à Paris à la rentrée au Théâtre Montparnasse. Voilà.
Très bien. Eh ben, écoute, et voilà, puis bientôt peut-être de retour au cinéma.
Oui, j'ai un autre film prévu pour l'année prochaine. Voilà, mais je peux pas trop encore en parler.
Et ça sera l'occasion pour toi de revenir, nous en parler en tout cas.
Mais avec grand plaisir, avec grand plaisir.
Merci beaucoup Yvan d'avoir été avec nous. N'avoue jamais, c'est en ce moment dans les salles. On va se quitter avec la bande-annonce de ce film réjouissant que vous allez pouvoir découvrir en ce début mai. Merci à toi.
Tu viens déjeuner ?
Je réaménage le grenier.
Ma chère Annie, c'est horrible de te savoir dans les bras d'un autre. Je n'arrête pas de penser à ta poitrine incandescente, à ton triangle de Vénus en éruption. Ces dettes te sont adressées.
Alors ?
Donc tu m'as trompé avec ce type.
Par si on s'en tient à ce qui est écrit. C'était il y a 40 ans.
Oui, mais c'est aujourd'hui que je le découvre.
Je quitte le lit conjugal.
Et tu vas dormir où ?
Dans le bureau. J'ai besoin de réfléchir. Ah ! Je pars à Nice pour péter la gueule de son Boris.
T'as perdu la tête.
J'ai perdu la face.
C'est un individu dangereux, un criminel en fuite.
Je dois absolument localiser cet individu.
C'est totalement hors protocole.
C'est un ordre.
Alors je vous rappelle que vous n'êtes plus en fonction, mon général.
Je vais l'éclater.
Direct. Je crois que t'es dans la merde.
Je te préviens, ça va être un carnage.
Tu vas le tuer.
Non, je suis sur ma visite en place.
Vous vous calmez maintenant, oui.
Lâchez-le, vous allez lui faire mal.
Annie ?
Oui.
C'est incroyable, t'as pas changé. Et vous voulez pas piquer une tête ?
On n'a pas nos maillots de bain, hélas.
Ah non, il n'y a pas de vis-à-vis ici. On met pas de maillot de bain.
On n'a aucune envie de voir tout ça.
Oh, pour moi, c'est pas grave, j'ai déjà vu.
Ça va très mal finir, cette histoire.
Tu te rends compte que tu risques de tout perdre ?
Je suis un homme de principe.
Annie, attends. Annie, qu'est-ce que tu fais ?
Je fais ce que je veux et je t'emmerde. Une fois divorcé, tu risques quand même de l'avoir un peu moins.
Dans un couple, quand ça va pas, on attend que ça passe.
Et si ça passe pas ?
C'est qu'on n'a pas attendu assez longtemps.
L'invité d'honneur de la semaine.
Allez, maintenant, on va revenir en exclusivité podcast sur la grande finale de Pékin Express qui a eu lieu samedi soir sur M6 avec la victoire de Laura et Romain face aux deux collègues corses. On y revient juste après ce petit extrait avec Romain et Laura qui seront nos invités en ligne avec nous, le temps de les récupérer. À tout de suite.
Vous êtes les finalistes de cette 18e saison de Pékin Express.
On ne lâchera rien, on veut arriver jusqu'au bout.
On est au coude à coude.
Go, 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 go !
On a envie d'en découdre, on a envie d'aller se battre.
Ça va pas être facile, ça va être la guerre.
Je les vois pas, je les vois pas, je les vois pas.
Cette course est folle, ça se joue à rien.
J'ai jamais vu ça dans Pékin Express.
Elle est pour nous, cette finale, elle est pour nous.
En fait, c'est le rêve de ma vie.
Allez, c'est au terme de plus de 10 émissions qui ont été haletantes qu'on a suivi le dénouement. C'était samedi soir dans Pékin Express avec un binôme qu'on n'attendait pas, on peut dire, au premier épisode puisqu'ils n'étaient pas là. Ils ont rejoint l'aventure en cours de route. Romain et Laura remportent donc cette 18e saison de Pékin Express et sont avec nous pour revenir sur leur aventure. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
C'était incroyable, on a vécu un samedi soir avec vous, c'était dinguissime ce qui s'est passé. Mais une finale comme jamais je crois qu'on a vécu, avec une tension et en même temps, mais vraiment au coude à coude avec Patricia et Jessica, c'était absolument fou ce qu'on a vécu nous en tant que spectateurs. J'imagine vous, en tant que participants, ça a dû être incroyable.
C'était fou. Déjà, de disputer une finale de Pékin Express, c'est incroyable. Alors, de la gagner, c'est vraiment quelque chose.
Alors, on imagine bien. Alors, Romain, Laura, franchement, tous les deux, c'est une histoire assez dingue, puisque Romain, toi, tu coiffes Laura, qui est une de tes clientes dans ton salon de coiffure. Et donc, à un moment donné, vous êtes fait le pari fou de dire, tiens, si on faisait Pékin Express. C'est un peu ça, non ?
C'est ça. Mais Romain, en fait, tous les ans, s'inscrivait avec nos conjoints respectifs. Il m'a dit, bah, écoute, Laura, voilà, ça fait des années que je te coiffe. Moi, j'adore Pékin, toi aussi. Est-ce que tu veux qu'on s'inscrit ensemble? Mais on se prenait vraiment ça à la rigolade. Donc, on s'attendait pas du tout à participer à cette aventure. Et en plus de la gagner, c'est incroyable.
Alors, on a été très émus, évidemment, de vous voir dans ce sprint final, de vous voir courir avec vos torches. On savait pas hein, quel binôme, évidemment, allait percer en premier cette bâche de Pékin Express. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, Romain, toi, tu n'y croyais plus du tout.
Ouais, j'y croyais du moins que Laura. J'avais quand même un petit espoir en moi. Enfin, c'est Laura qui me donnait l'espoir de me dire « il faut que tu y crois ». Enfin, vraiment, ça a été ma coach sportif sur pas mal d'étapes et encore plus sur ce sprint final car vraiment, j'étais... à bout et plus on avançait, plus mon corps il commençait à lâcher. Je pense que enfin mentalement en fait ton corps il sait que c'est la fin et il sait ouais. qu'il peut tout doucement lâcher mais c'est vraiment la dernière ligne droite et il faut pas lâcher. Donc un grand merci à Laura de m'avoir vraiment porté jusqu'à cette toile de fin quoi.
Ah, c'est les nerfs qui lâchent à un moment donné hein.
C'est ça, j'avais trop d'émotions, je suis super sensible. Voilà, on s'était dit, on ne peut pas croiser les corps de toute la finale. Et finalement, on a fait les trois questions au coude à coude avec elle. Soit on partait avant, soit elle partait avant. Enfin, vraiment, ça rajoute du stress en fait de les voir. Et le stress, la peur, aussi la frustration de se dire que c'est possible, qu'on soit deuxième. Enfin, vraiment, c'était un mélange, c'était trop pour moi, il fallait que ça sorte. Donc j'ai beaucoup pleuré sur cette finale.
Alors, sachant que ça a été tourné fin septembre, début octobre, comment on fait pour tenir le secret, pour tenir ça vraiment bouche cousue et que personne ne soit absolument au courant de ce qui s'est passé? Parce que ça, c'est dingue d'avoir ce délai entre les deux et d'avoir quasiment 8 mois à tenir sa langue, quoi. Ça doit être hyper frustrant.
C'est vrai que c'est difficile. On avait vraiment mis dans la confidence un cercle très restreint, donc nos conjoints respectifs et nos parents. Mais après, voilà, il y a des clauses de confidentialité. Et puis, je trouve que la victoire est beaucoup plus belle que les gens apprennent. Voilà, c'est un secret, mais on l'a très bien gardé. Et vraiment, je suis fière de nous parce que ça a été une belle surprise, même pour notre région. Enfin, voilà, on a vraiment ramené la victoire et on a fait la fête dans un bar. Et c'était la folie, on ne s'attendait pas autant.
Ah mais ce qui est assez dingue, c'était que c'était vraiment un peu le match nord contre sud, hein, parce que Patricia et Jessica, c'est pareil, ont fait une fête à tout rompre en Corse, et on avait l'impression que vous aviez monté carrément de chacun de vos côtés, en tout cas, des véritables QG pour suivre ensemble cette dernière soirée, en tout cas avec le public qui vous soutenait depuis le début, dans chacune de vos deux régions, c'est ça qui était beau à voir.
Oui, c'est ça, c'est vrai que du coup, on s'attendait pas à ce qu'on reçoive autant de monde sur cet événement, et les Corses, je pense que c'était pareil, et c'est ce qui était beau aussi, parce qu'on s'est fait un appel aussi en visio, en direct le soir, donc le Nord vs la Corse, et on s'est un petit peu chauffé, on a un peu chauffé les salles, enfin c'était vraiment bonne ambiance, et on aime beaucoup les Corses, et vraiment, elles ont été aussi tout autant méritantes.
À certains moments de l'aventure, Romain, c'était pas flagrant, hein. Je veux pas les voir, les Corses. Je veux pas les voir. Qu'est-ce que tu nous as fait rire, en tout cas, là-dessus?
Mais ça me rajoute du stress. Je suis déjà un stressé de base. Mais alors là, faire la finale de Pékin Express et être au coude à coude, non, c'est trop pour moi.
Bon, si on devait faire un retour un peu en arrière, si on repart 8 mois en arrière, quels sont les plus beaux moments de votre aventure? Quels sont ceux qui aujourd'hui restent comme ceux les plus marquants de cette 18e saison, vous concernant, pour votre duo?
Pour moi, personnellement, mais je pense pour Laura aussi, c'est notre arrivée, forcément dans l'aventure. On n'était pas censé partir et puis, on a eu la chance d'intégrer la course en étape 2 et on a commencé fort avec l'ascension du Kawaijen. C'était incroyable. On a monté ce volcan pendant 5 heures. C'était très très dur, très très physique. Il fallait faire nos preuves parce que on savait qu'on allait peut-être être dans le viseur de certains binômes puisque forcément on arrive comme ça en cours de route. Et on est arrivé premier en haut du volcan. On a ramené suffisamment de souffle pour se qualifier pour l'épreuve d'immunité le lendemain. Et surtout, ce panorama qu'on a eu, une fois arrivé au sommet de ce volcan, c'est juste incroyable. Malgré qu'on en a un petit peu bavé pendant 5 heures, une fois qu'on arrive en haut, on oublie toute cette souffrance.
Et toi, Laura?
Moi, je dirais notre arrivée, mais surtout pour concrétiser tout ça, quand on est arrivé devant cette toile et que j'ai vu au loin qu'elle n'était pas craquée, je l'ai aperçue avant Romain. Et puis Romain, la toile n'est pas percée, elle est pour nous. Il ne me croyait pas du tout. Et là, quand on arrive et qu'on voit cette toile au loin, on réalise pas ce qui nous arrive. Et en fait, quand on a percé cette toile, on réalisait tellement pas que quand tout s'est terminé et que les caméras se sont coupées, en fait, on a récupéré un morceau de toile qu'on a ramené en France et qu'on a gardé. Et je sais que moi, là, par exemple, ce matin, j'ai encore regardé ce morceau de toile et je me dis, on l'a fait, elle est là, cette toile.
Et puis c'est concret maintenant, vous avez toutes les félicitations des gens, des fans qui vous suivent.
Oui, les vidéos aussi.
C'est voilà. Dingue, depuis samedi, même nous, depuis l'annonce de votre victoire, je reçois plein de messages de félicitations pour vous et c'est beau à voir, en tout cas le public vous a vraiment adopté, vous avez marqué en tout cas l'histoire de Pékin Express. Vous avez des binômes qui vont être un peu, comme on dit, vos BFF, vos best friends forever pour le coup.
Oui. Bah, c'est forcément. Vrai que du coup, on a fait une demi-finale avec les Suisses et les Corses. Ça nous a beaucoup, beaucoup rapprochés et on les porte dans nos cœurs. Après, on a vraiment sympathisé avec tous les binômes. Il y avait vraiment une bonne ambiance cette année et on sentait pas l'esprit trop de compétition, vraiment.
Oui, c'est ce qu'on avait l'impression. Il y avait la compète, mais vous faisiez un peu chacun aussi un peu la part des choses. Et comme ça a été dit d'ailleurs dans un épisode, il y a la compétition, mais il y a aussi l'humain, quoi. Voilà. Aussi, qui est au centre. Puis toutes les rencontres que vous avez faites, c'est que ça soit en Indonésie, en Malaisie, au Vietnam. Est-ce qu'il y a un des trois pays que vous avez préféré, en tout cas, où vous avez envie de retourner?
Ben, je pense que c'est le Vietnam. Après, l'Indonésie, les gens ont été très chaleureux. Et c'est vrai que, ben, en fait, ils ont rien. Ils nous ouvrent leurs portes. Moi, je me souviens que certains nous laissaient leur lit pour y dormir par terre, pour qu'on se sente vraiment comme chez nous. Et même si on était loin de nos proches, eh ben, on avait beaucoup d'amour et vraiment, on les remercie encore du fond du cœur parce que sans eux, l'aventure n'aurait pas été la même, quoi.
Romain, pareil, t'as des rencontres qui vont t'avoir marqué, hein, quand même, hein, sur ces 40 jours-là.
Moi, j'ai beaucoup aimé les gens de l'Indonésie. La Malaisie, c'est un peu plus compliqué. On va dire, c'est pas mon pays coup de cœur de ces trois pays. Et le Vietnam, oui, par la beauté, enfin la baie d'Along, juste être à la frontière de la Chine, c'est franchement, il faut le voir pour voir que c'est tellement magnifique. J'aime pas les mots assez forts pour expliquer. Parce que j'ai ressenti à ce moment-là quand on arrive au Vietnam.
Alors, on va retrouver dans une prochaine saison une version un peu All-Star de Pékin Express, l'épopée des Maharajas, qui a été annoncée d'ailleurs à la fin samedi soir de l'émission. Demain, on vous disait, voilà, il y a une version All-Star, est-ce que vous repartez avec vos baluchons et vous repartez sur Pékin Express? Est-ce qu'à un moment donné, vous direz, est-ce qu'il y a une épreuve, vous direz, alors on veut bien repartir, mais par contre, cette épreuve-là, non, plus jamais. Tous
les
deux.
Les sont prêts. On est
nos sacs sont prêts.
Ah, c'est marrant parce que Louison m'a dit la même chose. C'est dingue. Louison m'a dit exactement la même chose. C'est assez drôle ça quand même.
Bah, quand on fait Pékin une fois après, on peut plus s'en passer, c'est addictif.
Alors quelle est l'épreuve où vous direz non? Pas celle-là, pitié.
les piments.
C'est vrai que ça
t'a
fait rougir.
Et moi les anguilles.
Ah ouais, oh, c'était dingue ça, au marché là. Ah oui, franchement, c'était assez dingue que ça soit les anguilles ou les piments. Là, tous les deux, ça, on a vraiment l'impression que ça vous a beaucoup marqué. Bon, en tout cas, nous, on a adoré suivre vos aventures. Merci pour toutes ces belles soirées qu'on a vécues avec vous tous. Parce que franchement, c'était une belle épopée. Vous nous avez fait voir en plus des paysages qui étaient d'une beauté à couper le souffle. Alors, on a voyagé un peu avec vous, mais dans nos canapés. Donc franchement, c'était un véritable plaisir. Voilà, et encore bravo, félicitations à tous les deux pour cette victoire. Voilà. On vous dit à bientôt.
Merci. À bientôt,
avec plaisir.
Allez, à très vite. Merci Laura, merci Romain, vainqueur de Pékin Express saison 18. Et à mon avis, on n'a pas fini de les voir tous les deux. J'espère en tout cas qu'ils seront de retour peut-être prochainement dans une version All-Star dans les années qui viennent ou pour le débrief Express aussi dans les prochaines saisons, on espère. Merci à tous les deux, à bientôt.
Merci. À bientôt. Merci.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé, on parlera de la Fulgurée avec Camille Clarisse et Pierre Perrier qui seront nos invités. Michael Dichter, également réalisateur du film Les Trois Fantastiques, ça sera notre coup de cœur ciné. Et puis c'est le grand retour de HP à cette occasion. Les producteurs de la série Mona HH, la réalisatrice et Mehdi Debbouze sont avec nous.
Le rendez-vous des stars. C'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chute, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chute, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chute, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les premiers cônes glaciers artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré.
Et retrouvez vos boutiques Langélis à Nantes, Paris, Bordeaux, Royan, La Rochelle et La Cotinière.
Partagez un moment convivial et chaleureux en écoutant Chut, on écoute la télé avec Iruac, votre marque de boucherie charcuterie basque qui fête ses 50 ans de savoir-faire avec ses recettes savoureuses et typiques du Pays Basque et du Sud-Ouest. Retrouvez vos produits Iruac dans vos grandes surfaces. Toutes les infos sur iruac.fr.